Le son des bulles sur RCN.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs du Son des Bulles, seule émission de radio dédiée à la bande dessinée sur RCN 90.7, la dernière de la saison, d'ailleurs on a oublié de le noter. Bonjour Olivier.
Bonjour Françoise, eh ben, j'espère que vous allez tous bien parce que nous, ici dans le studio, on a une forme
olympique.
Ah, ah oui, olympique assise, oui aussi, c'est possible, ça c'est un truc de genre,
olympique,
de Charles.
Hein.
Assise. Il a une forme assise.
Ah, une forme assise en Afrique. Eh ben voilà.
Ça marche aussi, ça marche aussi.
Pas de soucis, voilà. Et puisque nous sommes à J-22 avant le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est pas rien quand même. Alors on va s'échauffer un peu en vous proposant quelques albums en lien direct, ou pas, on verra bien, avec les valeurs de l'olympisme.
Voilà, alors autour de la table, en short, en pince à vélo, en chambre à air, le médaillé d'or des 19 km et 46 mètres du Faubourg des Trois Maisons, discipline aujourd'hui disparue bien sûr, Charles. Bonjour Charles, ça va bien?
Ça va.
Oui, ouais, bon, discipline, on continue, le vélo toujours bien.
Pas de problème.
C'est plus dur en train.
Toujours.
À ses côtés, la médaillée d'or de la mythique course Baza, Blois, Amiens, Saint-Malo, Angoulême, avec un record de 137 dédicaces, 241 auteurs interviewés. Bonjour Francine.
Bonjour à tous.
Ouais, on rougit, bonjour. Regardez.
Ah ben c'est parce que c'est
chaud dans le studio.
C'est beaucoup d'efforts, oui, bah, hein, tout ça. Hein. Et puis le champion du monde du triple saut de coq à l'âne de course sur des chemins de traverse dans les présentations de héros bodybuildés, mais en slip plus haut. Alors pas David, mais les héros. David, bonjour. Mais il n'est pas là, David.
Il n'est pas là, David.
Il est resté bulé quelque part. Il a beaucoup de travail.
Oh là là. Il faut savoir qu'il s'appelle David Bull.
Qu'est-ce que tout le monde le sait maintenant. Tout le monde le sait. Ouais, donc il est resté. Il a beaucoup de travail avec Philactère notamment.
Sinon, grand coureur de fond d'armoire à livres, médaille d'or des lanceurs de chroniques et de jeux de mots, médaille d'argent de plongeon en librairie, ben, mon voisin Olivier.
Ouais, c'est pas mal ça, ouais. Moi je suis un bon plongeur. Et puis médaille d'argent de trampoline qui retombe toujours sur ses pattes après avoir surfé entre émerveillement ou coup de gueule, Françoise. Et puis champion
de tout,
olympique, de la maîtrise du micro, de toute catégorie électrostatique et dynamique avec ou sans condensateur, Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc à la technique.
Bonjour Jean-Luc. Et pour finir, celle qui a tenu pendant 5 ans un marathon de chroniques et de présentations, qui navigue sur les flots de la bande dessinée, aujourd'hui championne du lancer avec élan d'annonce personnelle, Anne-Marie. Anne-Marie, c'est à toi.
Bonjour à tous. Oui, l'annonce personnelle aujourd'hui, c'est que je vais quitter le son des bulles pour voguer dans d'autres lieux. Donc, on va faire un petit appel à nos amis auditeurs, peut-être.
Oui, si vous aimez la bande dessinée, si vous aimez parler devant un micro, que ça ne vous fait pas peur, si jamais vous trouvez qu'on est sympathique, que vous avez envie de nous rejoindre, vous envoyez un petit mot sur
un mec de préférence pour respecter la parité.
Je dois remplacer une femme par un mec, non mais oh là.
Bon, faudra qu'on fasse les comptes, tout ça.
Ouais,
que,
j'ai pas si on est au clair.
Des drôles de parité, Charles.
Contactez RCN ou alors sur notre page Facebook et puis on verra comment.
Toutes les propositions seront analysées.
Voilà, c'est ça.
Et vous pouvez même peut-être faire un test comme certains ont fait et puis voir si ça vous convient ou pas.
Voilà, pourquoi pas.
Nous, on a commencé comme ça.
Des tests,
parfait.
Bon, pour Anne-Marie, moi, ça m'a fait suer quand même parce que c'est une vieille copine, indépendamment de l'émission. On la reverra, j'espère, lors d'un prochain jubilé. On va se faire un jubilé.
Ah, oui.
Ou d'une émission sur le thème des esprits des revenants. Oh, dis-nous, oui, Anne-Marie, s'il te plaît.
Reviens, Anne-Marie, reviens. Non, personne ne
fait... Jésus, avec la guitare.
Alors, voilà. Et sinon, donc, on a un invité aujourd'hui.
C'est beaucoup.
Et oui, un invité d'honneur. Donc, on va passer la parole à Francine pour nous présenter ce charmant invité.
Alors, Romain Dutreix, bonjour. Alors,
bonjour.
On est ravis que vous ayez accepté notre invitation pour parler du dernier album qui vient de sortir chez Targaud, Mamie, pardon, n'a plus toute sa tête. Et moi, j'en perds mes moyens. Et quand Mamie perd la tête, elle l'a fait perdre aussi à tous ses visiteurs. Et ce, littéralement. Alors, Romain, que se passe-t-il avec votre mamie? Racontez-nous tout.
Oh là, faut que je raconte tout.
Non, mais de quoi nous mettre l'eau à la bouche. De quoi nous mettre l'eau à la bouche.
Oui, ben écoutez, c'est une histoire qui est plus ou moins inspirée quand même de la maladie de ma vraie grand-mère, qui est décédée maintenant. Donc je me suis inspiré de choses qui lui sont vraiment arrivées. Alors pas dans les péripéties, mais plutôt dans son... la façon dont son esprit commençait un peu à partir en... Je sais pas comment dire ça poliment, mais enfin... oui, elle commençait à confondre les gens, les époques, enfin, à voir des gens sortir de la télévision et autre chose du même genre. Et j'ai eu envie de parler de ce phénomène, mais en essayant de le faire d'une façon... pas sérieuse, ni larmoyante, ni autobiographique, parce que je sais pas faire, et qu'en plus je pense que si je l'avais fait, ça aurait été ennuyeux. Donc je me suis dit que j'allais le faire de façon humoristique, et pour ça, le seul moyen que j'ai trouvé, c'était de pousser le curseur un peu plus loin et de la transformer en... ce qui est finalement un procédé assez classique, mais de la transformer en mamie tueuse, en fait, puisque comme ma grand-mère avait vraiment vécu, en particulier... surtout la Seconde Guerre mondiale, la première aussi, mais elle était vraiment toute petite. Et surtout la deuxième, ça paraissait logique, surtout à la fin de sa vie, qu'elle se croit toujours en 1943. Et voilà.
Est-ce qu'il va la faire trucider tous les visiteurs en les prenant pour des soldats allemands, pour voilà. Des membres de la Gestapo, etc. Alors, vous êtes un maître de la parodie, hein, et puis... donc notamment à travers de l'album Vos Impostures et d'autres albums. Ici, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une parodie de genre qui mêlerait justement à la fois polar et slasher? Et y a-t-il des œuvres particulières qui vous ont inspiré?
Oui, moi je fais une espèce de gros gloobie-boulga de Ouais, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit un peu un mélange de genres, oui. C'est-à-dire qu'il y a un aspect auto-fiction, si vous voulez, parce que je me mets quand même en scène dedans. C'est moi le héros, avec ma vraie grand-mère, ma vraie épouse, mon vrai fils, mon vrai grand-père aussi d'ailleurs. Et de faire à la fois un polar parodique, une autofiction, et puis quelque chose qui soit un peu inspiré, oui, bah de aussi bien des séries genre Dexter que par exemple en bande dessinée, ou de films comme, je sais pas, Tati Daniel ou autre chose du même genre. Et en bande dessinée, de choses comme Calvin et Hobbes par exemple. Parce que dans l'album, ma grand-mère parle à mon grand-père, sauf que mon grand-père est mort depuis plus de 30 ans, mais elle le voit comme dans Calvin et Hobbes, où, pour ceux qui ne connaissent pas, Calvin, c'est un enfant qui a un tigre en pluche, et dès qu'il n'y a pas d'adulte dans la pièce, le tigre est vivant, en fait. Et dès qu'un adulte rentre, on voit que c'est une peluche. Et je voulais quelque chose d'un peu comme ça avec ma grand-mère aussi, parce qu'à la fin de sa vie, c'était pas loin d'être ça, quand même.
Alors... on vous connaît aussi comme dessinateur du Canard Enchaîné, avec lequel vous collaborez depuis 2018. Vous faites également partie de l'équipe d'auteurs du mensuel Fluide Glacial. Vous avez d'ailleurs publié plusieurs albums à l'humour corrosif, notamment chez Fluide Glacial. Et depuis votre entrée au Canard, vous n'avez plus publié d'album jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors, problème de temps, et pourquoi ce retour aujourd'hui à la BD? Ça vous manquait?
Si c'est passé autant de temps, c'est parce que il a fallu que j'apprenne un nouveau métier, en fait. Le dessin de presse et la bande dessinée, c'est vraiment deux choses complètement différentes, et j'avais jamais fait de dessin de presse avant, et donc en fait quand j'ai commencé au Canard, il m'a fallu un certain temps d'adaptation, parce que puisque c'est l'émission olympique, on va filer la métaphore sportive, mais en fait, la bande dessinée, c'est de la course, c'est du marathon, et le dessin de presse, c'est du sprint, et passer de l'un à l'autre deux fois par semaine, c'est pas toujours évident. Il a fallu quelques années pour que je trouve le bon rythme, d'où le temps que ça m'a mis pour faire ce bouquin-là, d'autant plus que je m'étais pas mis la pression, c'était un projet très personnel qui me tenait à cœur, et c'était aussi ma première histoire longue, donc je me suis mis une pression quadruple, en fait, dessus.
Alors je me demandais quand est-ce que la rédaction du Canard Enchaîné va s'installer à Nancy. Parce que finalement, quand on compte les dessinateurs, le Fred est à Nancy, le Lindingre, bon, moitié parce que c'est un médecin, donc on ne va pas le compter. Il y a Diego, il y a toi, voilà, c'est la mainmise de la Lorraine sur l'intelligence parisienne.
Oui, pas encore assez à mon goût. Effectivement, il faudrait la délocaliser ici, comme ça on pourrait choisir tous les dessins nous-mêmes, et puis il y aurait que il y aurait que nous dedans. Ça serait parfait.
C'est bien parti, ouais.
Alors justement, si vous êtes venu au Canard grâce à Johnny, et je vais vous laisser le soin de raconter l'anecdote, qu'est-ce qui au début vous a amené à la BD, vos lectures, votre milieu
Non, un dressage en bonne et due forme par mes parents, puisque je viens d'une famille très portée sur... les arts plastiques et la bande dessinée en particulier, puisque même mon grand-père maternel, en l'occurrence, était peintre et illustrateur. Il a beaucoup travaillé pour la presse, enfin Philippe Aki, des choses comme ça, plein de revues. Lui, il était plutôt illustrateur SF, érotique, dans les années 60. Donc c'était un peu le modèle... de réussite artistique dans la famille, et mes parents étaient très très portés là-dessus, et très gros lecteurs de bande dessinée aussi, et donc en fait j'ai baigné dedans depuis toujours. Je n'ai même pas à souvenir d'un premier événement particulier, ça s'est fait naturellement, et mes parents ont encouragé la chose dès le départ, donc tout s'est fait vraiment d'une façon très... très naturel.
C'est pas un enfant de la balle, c'est un enfant de la bulle.
Oui.
Avec un petit détour quand même du côté du professorat, non? Que vous racontez d'ailleurs dans la courte histoire des 40 ans de la parenthèse.
Oui. Et puis j'en ai parlé aussi dans le... Je crois que c'était dans la semaine de Nancy, là, cette semaine. Ben oui, parce que du coup, comme mes parents m'ont tellement orienté dans cette voie, forcément, ma seule possibilité de faire une pseudo-crise d'adolescence, c'était d'essayer de faire le contraire, si vous voulez. Donc j'ai effectivement essayé de ne pas faire de la bande dessinée, d'abord par simple syndrome de l'imposteur, si vous voulez, hein. Toujours eu l'impression que j'étais pas assez à la hauteur. Et puis bon, quand vous êtes élevé comme ça, justement, dans une espèce d'optique très... champion. Comme ça, vous avez l'impression que ça va jamais être assez bon, jamais être assez bien. Du coup, j'ai hésité très longtemps à faire ce métier, parce que je me sentais pas légitime, tout ça. Donc j'ai pris vraiment mon temps, et j'ai essayé effectivement de gagner ma vie avec d'autres choses, dont l'enseignement. Donc j'ai passé... parce que malgré tout, comme je suis justement, j'ai été élevé à être très scolaire, donc je suis très bon dans tout ce qui est concours, examens, tout ça. Donc j'ai passé le CAPES. Et j'ai tenu un trimestre. J'ai tenu jusqu'au moment où les élèves ont mis le feu dans la classe. Et la deuxième fois, j'ai repassé un concours cette fois pour être prof d'art plastique. Toujours, c'était prof d'art plastique. Et donc la deuxième fois, j'étais prof d'art plastique dans les écoles primaires parisiennes. Et là, j'ai attrapé la coqueluche. J'ai tenu un trimestre aussi. Voilà. Mon record, c'est les vacances de Noël. En fait, c'était à chaque fois le coup près.
La deadline.
Voilà. Mais ça m'a confirmé que je ne pouvais pas faire d'autres métiers que la bande dessinée, qui était le seul métier que je pouvais faire sans voir personne. Voilà.
Alors on va revenir un petit peu justement à Mamie n'a plus toute sa tête. On va faire un petit arrêt sur les personnages. Vous avez un talent indéniable pour les caricatures. Hein. Il n'y a qu'à voir les 7 papes qui envahissent le salon de Mamie. Vous pouvez vous en dire un peu plus sur le chara-design. Vous êtes-vous inspiré de personnes réelles pour camper certains personnages, ou sont-ils sortis tout droit de votre imagination?
Bah, les papes en l'occurrence.
Mais je pensais notamment au commissaire.
En dehors des papes, évidemment, et puis de tous les personnages de ma famille qui sont les personnes réelles. Pour les autres, en général, j'ai tendance quand même à avoir des espèces de stéréotypes physiques dans la tête. Donc, c'est des espèces de mélanges de types de personnages, quoi. Puisque par la force des choses, je suis quand même un peu obsédé par les visages. Je pense un peu qu'à ça, en fait. Donc, j'ai tendance à les classer dans des petites boîtes par type morphologique. Et donc, quand je cherche un personnage avec un type de personnalité, j'imagine un type de physique qui tourne autour de ce que... Des fois, c'est un peu flou, mais pour le détective, oui, par exemple, j'avais des... Je voyais un type comme ça, qui était un peu un mélange de Jean Benguigui, Philippe Corsan, Georges Marchais, on m'a dit aussi. Enfin, des gens comme ça, quoi. Et pour le commissaire, vrai. Oui, des personnages type, je sais pas, Bruno Kremer, François Berléand, des physiques un peu comme ça, quoi.
Mais parce qu'il faut dire qu'il y a quand même trois histoires hein, qui vont s'entremêler, trois fils narratifs. On va avoir effectivement la mamie, César, et puis Romain, donc, qui va essayer de réparer un petit peu tout ça. On va avoir un deuxième axe avec l'enquête propre du commissaire, avec un deuxième, avec un adjoint qui vient d'arriver, la recrue qui est complètement à l'ouest, style Avrel, qui commet bévue sur bévue. Mmh. Et puis on en a un troisième aussi, avec le détective privé, parce que la femme de Romain, forcément, de voir Romain toujours parti, elle commence à se poser des questions sur sa fidélité.
Oui, bah, mon principe, c'était de... Comme ma grand-mère... Je voulais pas que ma grand-mère soit une espèce de super-héroïne. Je voulais qu'elle reste réaliste en tant que grand-mère. Donc, elle pouvait pas être rebelle, costaude. Donc, il fallait qu'elle tue des gens parce qu'elle les prend pour des Allemands, mais qu'elle soit quand même incapable de tout gérer derrière. Donc, il lui fallait un complice, moi. Et il fallait après que... Ce que j'avais envie de faire, en tout cas, c'était de m'en rajouter une couche à chaque page. Et donc... simplement par la logique des choses, en fait, d'imaginer que s'il faut que j'aide ma grand-mère, donc il faut effectivement que je découpe les gens, que je les mette dans des sacs, que je trouve un moyen de m'en débarrasser, que j'éloigne les soupçons de la police, parce que la police sait que le type qui a disparu est allé chez ma grand-mère, donc il faut essayer de trouver des fausses pistes. Et aussi, ça me prend du temps, donc ma femme se demande ce que je fais, parce que je fais semblant de travailler pendant ce temps-là et mon travail n'avance pas, donc soupçon d'adultère, et donc ça fait effectivement...
Avec toutes les conséquences qu'il va y avoir.
Plusieurs narrations qui se croisent, oui.
Et donc l'album va se terminer sur un super cliffhanger. Hein. D'ailleurs, on a vraiment hâte de connaître la suite. Alors, c'est un diptyque ou triptyque?
En fonction des... achetez-le. Achetez-le, comme ça, ça sera un triptyque. Non, a priori, un diptyque, mais effectivement, il y a encore une petite incertitude sur le nombre total de pages. Donc ça sera en fonction du nombre de pages et de mon rythme de travail. A priori, on va dire diptyque.
Et donc, ça devrait paraître
L'année prochaine.
L'année prochaine.
Dans un an à peu près, oui.
Super. Voilà. Eh bien, merci beaucoup.
J'ai une question. Donc, du coup, vous êtes toujours en bon terme avec votre famille? Parce que vous êtes inspiré de tout le monde.
Étonnamment, oui.
Ils ont lu la BD quand même.
Mais oui, mes parents ont lu la BD. Ça leur a beaucoup plu. À ma grande surprise. ma grand-mère est décédée il y a un bout de temps, donc... J'ai quand même. Je pouvais faire ça qu'après son décès, je pense, parce que. Je pouvais quand même pas. Enfin, je pense qu'il ne pouvait pas trop, non plus trop lui en demander. Hein, je veux dire. Voilà, je ne sais pas si elle aurait été forcément totalement réceptive à tout le truc, mais bon.
Il faut la force de le faire quand même, c'est pas rien d'aller interpeller son histoire et puis de la mettre, voilà, il faut la force de le faire aussi, oui, c'est un exercice particulier.
Oui, c'est comme ça que je l'ai pris, oui, mais disons que c'est ma façon de lui rendre hommage post-mortem, en l'occurrence, oui.
Eh bien, merci beaucoup Romain.
Merci, merci.
Et puis, il ne vous reste plus qu'à aller dans votre librairie préférée et puis acheter Mamie n'a plus toute sa tête, c'est absolument hilarant.
Tout à fait.
Du début à la fin.
D'autant que si plus on l'achète, plus il y en aura, j'ai l'impression.
Oui, c'est ça.
Si j'ai bien compris. Oui, donc, on ne va pas se priver quoi, de ça. Ben, merci, Romain. Et puis, merci donc, on va continuer l'émission. Et n'hésitez pas à intervenir, hein, puisque vous savez que le thème, c'est l'olympisme. Donc, si vous avez des choses à dire sur les athlètes.
Je démocrate. Hein,
sur les chroniqueurs, sur les bandes dessinées, sur tout ce qui vous passe par la tête.
N'hésitez pas à intervenir et à nous interrompre. Maintenant, on va se rafraîchir un peu. Un petit tour de vélo.
Ah oui, on avait une pause musicale qu'on avait prévue à la suggestion de je ne dirais pas qui, mais on s'est censuré parce que alors le titre quand même censuré, c'est la pipe à pépé, mais on a mis autre chose sur la bicyclette.
Avec une selle.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain. Quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Le son des bulles sur RCN.
Voilà, voilà. Donc, il ne vous a pas échappé, après cette petite chanson et ce petit tour à bicyclette, que tout le vocabulaire qu'on a utilisé jusqu'ici pour présenter les chroniqueurs se rapporte aux Jeux Olympiques, au vocabulaire sportif, puisque les JO ont lieu dans 22 jours, je le rappelle. Alors, nos chroniqueurs vont se plier à l'exercice sportif. On est tous des athlètes autour de la table, confirmés et expérimentés. Et donc, on va passer la parole au premier d'entre eux, Charles.
Eh bien, merci.
Eh bien, je t'en prie.
Alors, bon, moi, je vous parle toujours de bandes dessinées classiques. Alors, dans les bandes dessinées classiques, évidemment, il y en a eu pas mal qui traitaient des Jeux Olympiques. Alors, la plus connue, évidemment, c'est Astérix, Jeux Olympiques. C'est, donc, Françoise nous en livrera une analyse détaillée dans quelques instants.
Comme sur moi.
Mais l'évocation des Jeux Olympiques est l'occasion de remettre sur le devant de la scène l'auteur qui a fait découvrir à d'innombrables jeunes lecteurs les modes de vie et les paysages du monde antique. Je vais vous parler de Jacques Martin, l'inoubliable auteur de la série d'aventures d'Alix. Alors attends, tiens, voilà, je montre à la caméra. Précurseur d'un style graphique très particulier nommé le réalisme épique. Repris aujourd'hui par de nombreux dessinateurs qui publient sous le label Jacques Martin, alors voilà, des dessinateurs, enfin toujours le label Jacques Martin, qui publient maintenant des centaines d'albums publiés à des millions d'exemplaires, traduits en plus de 10 langues, dont le latin, et même le grec ancien traduit par un collège de 3e en Alsace. Donc il parle alsacien, français et grec ancien. Voilà. Alors, Jacques Martin est né le 25 septembre 1921 à Strasbourg et nous a quittés le 21 janvier 2010. Orphelin de père, il est plus ou moins abandonné au pensionnat par sa mère. Il a une jeunesse très difficile. Il échoue à l'examen de l'entrée aux Beaux-Arts. Il a 18 ans quand arrive la Deuxième Guerre mondiale. Il travaille alors comme dessinateur industriel et commence à publier quelques premières illustrations sous le nom de JAM. JAM, donc l'abréviation de Jacques Martin. Voilà. Puis il part au STO, aux usines Messerschmitt. Après guerre, il s'installe à Verviers en Belgique où il se marie et aura avec sa femme Monique 2 enfants. À partir de 1946, il travaille pour l'hebdomadaire Bravo, puis tente de mettre sur pied un journal de bande dessinée et lance le magazine Jackie. Mais c'est un échec, notamment en raison de la concurrence du journal Tintin, pour lequel il se décide à postuler en 1948. Donc, il rentre dans l'équipe des premiers dessinateurs de Tintin et il crée le personnage d'Alix, dont les histoires extrêmement documentées se déroulent pendant l'Antiquité romaine, le succès étant au rendez-vous, d'autres aventures suivent rapidement, donc le Sphinx d'or, l'île maudite, etc. Et avec Hergé et Jacob, ils représentent alors ce qu'on va appeler l'école de Bruxelles, notamment caractérisée par le graphisme de la ligne claire. Toujours pour le journal Tintin, il crée le journaliste Lefranc, en 1952, là encore, le succès au rendez-vous, et il laissera plus tard à d'autres dessinateurs la réalisation des albums, continuant jusqu'en 2004 à concevoir le scénario, les dialogues et un découpage extrêmement abouti de chaque planche, comme il le fera pour chacune de ses séries. Hergé lui demande parallèlement d'intégrer les studios Hergé et de l'aider sur les albums des aventures de Tintin. Alors, j'ai déjà parlé des premiers Hergé qui était un super dépressif, donc c'était pas facile. Leur collaboration dure 19 ans, de 1953 à 72, et ils participent aussi au scénario et au décor de l'affaire Tournesol, Coq en stock, Tintin au Tibet, les bijoux de la Castafiore et Vol 714 pour Sydney. Ah, 714, voilà. Oui. Il s'intéresse ensuite avec différents dessinateurs à d'autres périodes historiques. En 78, il lance Gen, alors attends, voilà, c'est celui-là. Il lance Gen, d'abord publié sous le nom de Xan pour le journal Tintin, dont l'action se situe durant la guerre de 100 ans. Martin signe alors les scénarios des 9 premiers albums, et puis après le dessin sera assuré par Jean Pleyer. Alors, faut dire que le problème de Jacques Martin, c'est que, à partir de 1992, il a souffert d'une maladie des yeux. Donc il est devenu quasiment aveugle. Donc il a formé pas mal de dessinateurs, mais il a toujours contribué à lancer des équipes et à travailler sur les scénarios. Donc en 90, il crée Orion, qui amène de la Grèce antique. Alors là, bon, il dessinera le premier album, puis après, bon, bah, pareil, il laissera à d'autres le soin de continuer. Entre 92 et 99, ça va être Chaos. C'est une série, on peut dire Chaos aussi, oui, qui se situe en Égypte antique. Après, en 2000, alors c'est le 17e siècle, avec une série qui se passe sous l'époque de Louis XIV, c'est Loïs. Et là, Alors, il va confier les rênes de l'affaire à Patrick Weber.
Oh non, c'est, oui.
Bon,
c'est
donc, ainsi, des fois, il est l'auteur de 7 séries différentes de bandes dessinées, d'historiques aventures. Voilà. Alors, parallèlement à celle-ci, l'auteur a créé la collection des voyages d'Alix. Alors, c'est des ouvrages parlant de... Bon, chaque fois que vous allez voyager, vous allez au Beaux de Provence, ben vous allez voir une série avec le label Jacques Martin sur les Beaux de Provence. Partout où on va, il y a une série de Jacques Martin. Non, mais c'est ça. Si c'est des villes du Moyen-Âge, ça va être Xan. Si c'est c'est par exemple sur les batailles de la Moselle. Donc, c'est les enquêtes de Lefranc. Enfin, donc, j'ai dit des centaines d'albums qui sont publiés sur le label Jacques Martin. Voilà. Alors, Jacques Martin nous laisse donc une œuvre considérable, récompensée comme il se doit par de nombreux prix et distinctions, et même il a été élevé au grade de chevalier des arts et des lettres par Jacques Lang lors d'une mémorable exposition des planches d'Alix à la Sorbonne en 1984. C'est tout pour aujourd'hui.
Chapeau bas. Eh ben oui, très bien, très bien. Pour une fois que David n'est pas là pour nous présenter des héros en jupe, ben il y a quand même.
Ah oui,
quand même. Hein. Tout va bien. Merci, Charles, beaucoup. Merci. Alors, on va passer.
Ben, je vais passer la parole à la traîtresse d'Anne-Marie. J'ai dit que je te raterais pas pendant l'émission.
Oh, d'accord, je vais prendre cher. Alors, moi, j'ai voulu faire un exploit. Alors, ça n'a pas été facile, hein. Pour la première fois, je vais chroniquer un manga.
Ah, oui.
Olympia Kyklos.
C'est un manga, ça.
C'est dur, hein. j'en ai bavé, hein. Je vous garantis que j'en ai bavé. Bref.
On n'est pas là pour rire.
Non, c'est du boulot. Mon cerveau, il n'est pas fait pour. Mais enfin, c'est pas grave. Donc, Olympia Kyklos, dessin et scénario de Marie Yamazaki. Ça va, j'y arrive. traduit par Vladimir Laber et Ryoko Sekiguchi. C'est dur. Hein. Donc c'est un seinen. Je rame. Hein. Sorti en 2018 chez Casterman. Alors il y a 7 volumes. Alors moi j'en ai lu 2, j'avoue.
Hein. Ah, t'as pas lu les 7?
Non. Non, parce que même le deuxième, je crois que je suis pas allé. Bon, alors, ça se passe en...
Ah, tu as envie de le lire.
Ah, ouais. Non, mais c'est fait pour les jeunes lecteurs de manga, quoi. Je pense que...
J'ai 77 ans.
Certainement que toi, t'es l'esprit beaucoup plus jeune que moi, mon cher Charles, je pense, d'ailleurs. Alors, ça se passe en Grèce, au 4e siècle avant notre ère. Alors, c'est le jeune Démétrios, jeune homme rêveur au corps d'athlète. Alors, ça, c'est sûr qu'il est chouette. Hein.
Ah, bah quand même.
Oui.
Et au moins le plaisir des yeux.
Ah oui, au moins. Donc, c'est un peintre sur céramique dans un petit village. Il est amoureux en secret d'Apollonia, la fille du chef du village. Bon. Alors, il se retrouve au cœur du conflit qui oppose son village au village voisin, bien plus puissant depuis des lustres. La guerre semble inévitable. Mais nous sommes dans une année olympique, ce qui interdit l'usage des armes. Les conflits doivent être réglés par le sport. Ah, Démétrios est donc sommé de participer aux compétitions. Mais son caractère n'est pas du tout enclin à l'affrontement. Hein. Il hait le sport. Alors lui, vraiment, c'est pas son truc. Surtout les sports pratiqués à l'époque. Hein. C'était pas tout le contenu. Voilà. Alors, ce garçon, il est quand même assez étonnant. Hein, parce que le soir venu, il se replie dans une grande jarre pour rêvasser et dormir. Quand soudain, un orage éclate, la foudre tombe sur la jarre.
Ah oui.
Et qu'arrive-t-il à Démétrios?
Ben, foudroyé.
Eh ben non, il se retrouve transporté en 1964 au Japon.
Ah.
Voilà, c'est incroyable.
C'est plausible, c'est pas...
Oui, ouais, c'est le truc qui arrive tous les jours, ça.
Quand est-ce qu'il fait une vidéo?
Donc il se retrouve face à un vieil homme qui possède, lui, une jarre dans ses étagères décorée par Démétrios. Alors, le papy lui dit « Ah bah oui, ça c'est une antiquité d'il y a au moins 2000... »« Mais non, je l'ai faite hier !» qui lui répond « Non, c'est... » Alors, l'homme qui est quand même... C'est ce vieil homme qui est quand même assez érudit, il comprend que ce jeune homme parle le grec ancien, déjà. Mm-hmm. Alors bon, il le repère aussi,
comme
parce que... vu la tenue et le langage, bah, il se dit, oui, bon, ça ne l'étonne pas, c'est quelqu'un qui vient de l'Antiquité. Alors, il lui dit, viens voir, il y a une fête sportive, là, je vais te montrer les fêtes sportives chez nous. Alors, ce n'est pas les Jeux Olympiques, hein, même s'il y a eu les Jeux Olympiques à Tokyo en 64, là, c'est des fêtes du sport. Et Démétrios découvre d'étranges épreuves sportives où tout un chacun peut participer. Ainsi, et puis qu'il n'y a pas besoin d'être super costaud, super... Et comme ça, il voit le vieil homme gagner une course. Une course à l'œuf. Donc en fait, le truc, c'est que tu cours avec un œuf posé dans une cuillère. Tu cours et tu ne dois pas faire tomber l'œuf. Donc, les compétitions différentes, comme ça est varié, du même style se déroulent. Et puis, Démétrios découvre qu'autour du cou d'un gamin, une médaille. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une médaille en or et tout, c'est magnifique. Alors, le gamin lui dit, je te l'offre. Et puis, il dit, on m'offre une médaille, je vais peut-être leur montrer ce que c'est que vraiment le sport. Alors, moi, je vais vous montrer ce que c'est le sport. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en tenue sportive, de l'Antiquité.
Oui, en jupette.
Eh ben non, pas du tout, non, mon ami. Ah bon. C'est pas la jupette du tout, mon ami. La tenue sportive, c'est tout nu comme un verre. Nu comme un verre. Donc
choque.
Là, ça choque.
Oui.
Mais un éclair survient, la foudre, et il repart. Donc il revient dans son temps. du coup, comme il devait choisir l'épreuve sportive pour défendre son village, eh ben, il choisit la course à l'œuf. Il gagne. Et puis ainsi de suite, voilà, il fait des voyages dans le passé, dans le futur, et il découvre différentes choses. Et puis il ramène ça dans son quotidien. Et puis voilà. Donc bon, la première histoire est sympa. La deuxième, l'aller-retour, c'est sympa. Et puis après, c'est toujours un peu la même chose. Donc
je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas lu les 7.
Mais je trouve que ça peut être sympa quand même pour découvrir un peu des cultures différentes.
Tout à fait.
Voilà. Donc, je vous invite les jeunes et moins jeunes à lire. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a des beaux dessins. Hein. et des bouquins.
C'est cadré, c'est pas comme du manga. Enfin, c'est des mangas avec cadré. Des fois, dans les mangas, il y a les dessins qui se superposent les uns les autres. Moi, je sais jamais lequel il faut lire en premier.
Ah ben, bah, c'est-à-dire que des fois, les cases, elles sont un peu
décalées. Personnellement, je trouve.
Ouais, mais sauf que des fois, tu sais pas dans quelle case il faut lire en premier. non, c'est pas si toujours bien ordonné que ça.
Faudra un mode d'emploi ou des flèches. Moi, des fois,
oui, il faudrait des flèches, oui.
Le manga, c'est quelque chose que c'est une sur votre table de chevet, non les...
Et une belle double page.
Ça dépend.
Ah, il y a un très bon manga.
Oui. J'avais une question ici. Il se met tout nu à chaque épisode.
Ah oui,
donc à chaque fois, il est transporté dans un nouvel univers et il finit par se mettre tout nu.
Ah bah oui.
Et là, la foudre arrive pour le...
Oui. Il court le marathon au bout d'un moment. Il se retrouve en compétition à courir le marathon. Et évidemment, il est nu comme un verre.
Et bien, courvêtu.
Merci. Ah ouais.
Donc, merci. Bon, alors, je ne sais pas au septième s'il est encore nu, s'il a compris. Ouais.
Tu l'as vendu bizarrement, mais c'est intriguant quand même. Ça donne envie d'aller voir ce qui peut se passer là-dedans.
Ouais. Allez voir ça. C'est de la médiathèque. Je l'ai trouvé à la médiathèque. C'était pas dans ma bibliothèque.
Eh ben, on va rester dans la course, avec peut-être pas tout nu.
Ah non, lui, il n'est pas tout nu, non.
Non,
Francine, non.
Politiquement correct.
Mais un autre athlète, non, quand même.
Sauf la musique.
Mais un autre athlète.
Un autre athlète, quand même, et oui. Le grand Jesse Owens. Alors, évidemment, on connaît tous ce formidable exploit de Jesse Owens, quadruple champion olympique aux Jeux de Berlin de 1936. 4 médailles d'or, le 100 mètres, le 200 mètres, 4 fois 100 mètres et le saut en longueur. Et il restera à jamais dans l'histoire comme ce sprinter et sauteur en longueur afro-américain qui, avec ses 4 médailles olympiques, aura défié Hitler. Mais what else? À vrai dire, moi, je ne sais pas vous, mais moi, mes connaissances sur le sujet s'arrêtaient là. Okay. Et un moyen d'en savoir plus, et de la plus fantastique façon qui soit, et littéralement, c'est la BD parue le 7 de ce mois chez Futuropolis, Jesse Owens, Des Miles et Des Miles, par Gradimir Smujda. Alors, avant de parler de la BD proprement dite, petit arrêt sur James Cleveland Owens, plus connu sous le nom de Jesse Owens. Vous avez remarqué que ses initiales, c'est J.O.
Prémonitoire,
non?
Oui.
Alors, petit-fils d'esclave né à Oakville, en Alabama, le 12 septembre 1913, dixième d'une fratrie de 11 enfants, il est issu d'une famille pauvre travaillant dans les champs de coton. En 1920, le travail venant manquer, la famille Owens quitte le sud, direction Cleveland, Ohio. Et c'est là, au collège, qu'il va être repéré en raison de ses performances hors normes, avant d'intégrer en 1933 la section d'athlétisme à l'Université d'État de l'Ohio, où l'entraîneur Larry Snyder, pour qui seul le talent compte, le prendra sous son aile. Alors, son exploit aux Jeux de Berlin occulte la journée légendaire du 25 mai 1935 à Ann Arbor, dans le Michigan. Et qu'a-t-il fait ce fameux 25 mai 1935 ?
Il a couru ?
Oui, il a couru bien sûr. En l'espace de 45 minutes, il a battu 6 records du monde.
Ah ouais, quand même.
Quand même, oui.
Ce sera intéressant.
Alors, relativiser. Hein.
Ouais, mais alors attention, hein, avec Gradimir Smujda, il ne faut pas s'attendre à la bio classique. Hein. Comme en son habitude, il a choisi la fantaisie, l'humour, le grand spectacle, mêlant la métaphore burlesque et l'exactitude documentaire. Dans une fable où il évoquera les remous de la jeunesse du champion, entre vie de labeur et de pauvreté, catastrophe naturelle et radia du Ku Klux Klan. Alors l'histoire va nous être contée par un chat. Un chat noir, joueur de banjo, qui va être l'alter ego de Jesse Owens, son ami imaginaire, qui va l'aider à surmonter les obstacles, à fuir les nombreux ennemis pour aller au-devant de son destin. Cours, Jesse, cours! Owens est représenté continuellement en train de courir, sans jamais s'arrêter, fuyant les dangereux animaux qu'il côtoie dans la ferme de sa jeunesse. Jar, bouc, alligator, coyote, et j'en passe. Et les catastrophes naturelles, ou encore le Ku Klux Klan. Quant à Larry Snyder, il est présenté sous les traits d'un policier rencontré lors d'une fabuleuse course-poursuite sur des poutrelles d'immeubles en construction. Or, cette narration, complètement burlesque, n'exclut en rien d'aborder des sujets sérieux, tels la misère dans le Deep House lors de la Grande Dépression, le racisme, la ségrégation. Parce que si on n'oublie jamais de préciser qu'Hitler avait refusé de lui serrer la main, encore soit dit en passant, c'est un peu une extrapolation. Hein. Jesse Owens lui complétait, c'est le président Roosevelt qui m'a snobé. Il ne m'a même pas envoyé un télégramme. À mon retour aux États-Unis, je ne pouvais pas m'asseoir à l'avant des autobus. Je devais m'asseoir à l'arrière. Je ne pouvais pas vivre là où je voulais. Et il lui faudra attendre 40 ans qu'il reçoive les hommages de son pays en 1976 lors des études présentées par le président Gerald Ford.
Alors cet album, c'est aussi une histoire d'amitié. Amitié entre Larry Snyder, son entraîneur. Amitié aussi avec Luz Lang, l'athlète allemand favori du saut en longueur qui terminera la seconde place lors des JO de 36. Et puis pour terminer, il y a la représentation graphique à coupler le souffle de l'ancien professeur des Beaux-Arts fou de peinture. Comment ne pas être ébahi devant la splendeur des 128 planches en couleur directe, fourmillantes de détails réalisées à l'aquarelle, avec une mention spéciale pour les doubles pages qui sont de véritables petits tableaux, que ce soit les esclaves dans les plantations de coton, la drésine poursuivie par une locomotive sur un pont, la pyramide d'éléphant dans le cirque, etc. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Courir chez votre libraire. 24 euros, c'est pas cher.
Ça mérite bien l'effort.
Par contre, on n'a pas vu la BD, donc si tu peux les passer, même si on a la radio...
Voilà, donc eh ben, superbe, Jesse Owens, bravo, merci, on va courir, qui c'est qui va courir ? Moi j'ai le souffle court. Hein.
Moi aussi, Francine est en apnée à un moment, elle me fait peur.
Ah oui, je...
Eh bien on va passer, voilà, s'il faut courir, ouais. Faut peut-être qu'on prenne un petit quelque chose, petite potion.
Une petite potion. Avec,
on va
par
aller
exemple,
voir Astérix.
Astérix le Gaulois. Ben moi, je m'y suis collé pour Astérix le Gaulois. Voilà, forcément, Astérix aux Jeux Olympiques. Voilà, Astérix le Gaulois qui est donc né en 1959, en plus, comme moi. Mais bon, dans Pilote, pas moi, ça c'est la différence. Et puis qui a été mis en album, premier album, en 1961. Alors je parle toujours sous le contrôle de mon ami Charles, parce qu'il me corrige tout le temps, ou Francine, c'est bon. Ou tout le monde, mais voilà, bref, c'est ça, ouais. C'est comme ça. Et qui s'appelle donc album 1960. Oui, le premier titre, c'était Astérix le Gaulois. Donc qu'on voit, on voit apparaître Astérix avec déjà des jeux de mots, avec déjà des plaisanteries qui existent, moins denses que dans les suivants, mais il y a déjà la patte de Goscinny-Uderzo qui se met en place. J'ai choisi, bah évidemment, vu la thématique Astérix aux Jeux Olympiques, le 12e de la série, qui en compte maintenant une quarantaine, qui a été fait en 1968, donc c'est l'année des Jeux Olympiques à Mexico.
Oui.
Mexico. Les filles sont ardentes, mais reste calme, Olivier. Voilà. Donc, scénario. Alors, il existe une édition limitée de cet Astérix avec un petit livret de 16 pages supplémentaires, voilà, qui a été mis ou qui va être mis en vente, je ne sais plus exactement. Le scénario Goscinny, avec tout le talent qu'on lui connaît et toutes ses nombreuses contributions. Dessin d'Uderzo, hein, sous la plume duquel les personnages se sont affinés au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure de l'existence. C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus détaillé. Sauf Obélix, qui s'est étoffé, mais il ne faut pas lui dire, parce qu'en général, il n'aime pas qu'on lui dise qu'il s'est étoffé. Il ne supporte pas. Donc c'est, enfin, à mon sens, comme tous les premiers Astérix, c'est un grand Astérix, avec dedans tout ce que j'aime, l'esprit clan et bagarreur de l'histoire, qui plaît à tout le monde, de toute façon, tout le temps. La candeur d'Obélix et son rapport à la potion magique, on parle des potions magiques, ben, Obélix, c'est le faire-valoir d'Astérix. Astérix, c'est le héros, mais tous les autres autour, effectivement, Panoramix et tout, ça donne l'essence de la bande dessinée. Les états d'âme des Romains, moi, je me demande toujours pourquoi ils sont restés là, ils seraient partis. On n'aurait pas eu toute cette saga, ça aurait été un peu dommage, effectivement. Et alors, surtout, moi, ce que j'aime dans Astérix, c'est, et je m'y replonge à l'envi, c'est tout ce qui est le off, tout ce qui fait la magie de la bande dessinée, les citations latines, alors traduites en français des fois pour amorcer des phrases en français. Il y a les traductions, moi j'ai passé ma vie dans les pages roses du dictionnaire quand c'était des pages roses pour aller chercher la traduction des citations, c'était comme ça. Les jeux de mots qui n'arrêtent pas effectivement, les allusions qu'il faut toujours décoder. Les arrière-plans, là, il y a une page, page 31, où ils sont dans le village olympique. Et y a, ça me fait penser toujours à l'insecte du bas de la page. À l'arrière, il y a un sportif qui est en train il y a un entraîneur qui est en train d'engueuler un sportif qui s'entraîne au javelot puis qui lui a planté le javelot dans les fesses. Alors, c'est à l'arrière du plan, ça n'a rien à voir avec les scènes qui sont décrites. Ça ne change rien à l'histoire, mais ça change tout à la bande dessinée. C'est vraiment ce qui fait la richesse, c'est cette espèce de bande dessinée en 3D. Il y a toujours un plan arrière, il y a toujours des choses qui se passent. Moi, je trouve que c'est magnifique. Dans celui-là, je noterais dans les jeux de mots, la présentation des équipes olympiques. Et alors, il faut s'y connaître en histoire, effectivement. Les débarquements en Citerre, le colosse de Rhodes qui était venu tout seul, les marathoniens qui arrivent en courant. Et alors, il y en a un que j'avais loupé. Alors là, j'ai découvert la semaine dernière en lisant il y a l'équipe de Milo qui sont venus en masse. Et parce que Venus, ça s'écrit Vénus, et c'est la Vénus de Milo. Mmh. Purée, depuis que je lis Astérix, celui-là, j'avais raté. J'en étais, voilà. Donc, j'en découvre à chaque fois. C'est vraiment à lire, j'en découvre. De toute façon, je donne, c'est un conseil, hein. Soyez attentifs. Quand vous lisez, dès qu'il y a une phrase un petit peu bizarre ou alambiquée ou avec un mot qui vous paraît un peu étrange, il faut aller chercher la connotation, soit historique, soit linguistique. Parce que, voilà. Et l'un des premiers qui m'avait habitué à ça, c'est dans un autre Astérix où Obélix se veut rapporter sur la place du village un obélisque et où il dit, je mettrais bien ça sur la place du village. Astérix lui dit non, ça va pas. Et il lui dit, nos idées ne concordent jamais. Et quand il a dit ça, j'ai dit, il y a un truc et je suis allée chercher. Donc il faut piocher, c'est ça. Voilà, dans Astérix, il y en a pour tout le monde. Il y a les baffes qui plaisent aux enfants, mais qui plaisent aux adultes. Moi, j'adore les dessins des baffes, des gens qui volent, qui atterrissent n'importe où. Il faut être fan de géographie parce qu'il va dans des endroits pas possibles. Il faut être fan de latin aussi avec les citations. Alors, je sais que de toute façon, Astérix, il a été contesté. Contrairement à Alix, contrairement à James Owens, c'est pas historique. Les Gaulois, c'était pas tous des moustachus qui se battaient. Il y avait de la culture. C'était quand même plus différent de ce qui est fait. Mais en attendant, voilà, Astérix, c'est un monument pour moi. Alors, j'ai quelques remarques à faire quand même. Alors, une, effectivement, bon, qui est existentielle, personnelle, et mes copines, elles vont dire la même chose. C'est la place des femmes. Bon, Astérix, c'est un homme. Voilà, les femmes, elles restent au village et tout. Mais les personnages sont sympathiques quand même. Bonne mine, elle est quand même, tonitruante, elle râle, moi elle m'amuse, j'aime bien. On lui a fait un procès aussi, enfin qui n'a pas été trop loin, parce que la potion magique, on lui a dit mais c'est de la drogue. Donc il a dit non, c'est pas de la drogue. C'est
du dopage.
Ben oui, c'est du dopage, oui, c'est ça, dopage, oui, c'est le mot exact, du dopage, et il a dit non, c'est pas du dopage. Puis il a dit c'est pas une drogue non plus, il n'y a pas d'addiction, donc il s'en est bien défendu en disant que c'était pas le but de la manœuvre de travailler sous dopage. Et alors par contre, mes autres remarques, elles sont à titre d'interrogation. Alors, Pourquoi alors que les deux auteurs historiques sont décédés, s'acharner avec plus ou moins de succès à continuer cette série, cette saga, je ne sais pas comment dire. Et il y a des histoires qui sont catastrophiques, il y a des choses qui sont lamentables. Pour moi, après la disparition de Goscinny, la BD a perdu de son sel, de son esprit à tiroir, de ce que je décrivais, de tous ces allusions, ces détails qui font la richesse. Dès le Grand Fossé, moi, c'est mon dernier, je n'arrive pas à regarder les autres. Les autres, les jeux de mots sont téléphonés ou pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, voilà. Et pourquoi des suites des dessinateurs, pourquoi les dessinateurs ou les scénaristes, ils s'acharnent effectivement. Pourquoi on voit en gros plan, alors là, ça m'a encore, voilà, j'ai des énervements, hein, vous me connaissez. Ah, pourquoi là, c'est écrit énervés, René, hein. Goscinny et puis Uderzo en tout gros, alors que c'est écrit en tout petit. C'est en l'occurrence Conrad et Ferry, mais pourquoi on maintient le nom des...
C'est un commerce.
On y vient. Merci pour cette planche que tu me sers. Pas savonné, je te remercie. Voilà. Donc voilà, on voit toujours en gros Uderzo et tout. Alors, faut arrêter, quoi. Alors, je parle pas des produits dérivés, justement, je rejoins un peu ce que tu dis. Le parc, bon, c'est grand, les jeux, les films, pourquoi pas, il y a certains films qui m'ont ravi, ça c'est certain, mais pourquoi les albums? J'ai même vu, alors c'est des vieilles pubs, mais il y a même des fois Astérix qui sert de support de publicité, moi ça m'agace, je trouve que c'est quand même...
Corto Maltese aussi, hein, pour Dior.
Ah oui, mais c'est vrai, oui, non, mais complètement d'accord. Hein. Pourquoi voilà, que ceux qui veulent dessiner, scénarisent, le fassent, mais laissez les œuvres quand elles sont. Enfin voilà, ça a été pareil. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer une suite à la Bible? Je sais pas. Dites-moi.
Je pense que tout dépend aussi de l'auteur qui a créé le personnage. Quand on prend justement, je parlais de Corto Maltese, Pratt disait qu'il voyait très bien, la reprise de son personnage quand il serait plus là. Donc après, en tant que lecteur, on apprécie ou pas. Hein. Moi, je sais que, bon, moi, non. Hein, pour moi, Corto Maltese, c'est Pratt, mais ça, c'est autre chose. Mais moi, je pense que si l'auteur, au départ, voit bien évoluer son personnage sous d'autres traits, sous d'autres lieux, eh bien, pourquoi pas. Puis après, à nous, lecteurs, de tirer les conclusions.
Oui, de voir, effectivement. Mais je vois pour Uderzo, enfin voilà, ça a été suivi plus par Uderzo, par la fille d'Uderzo, on dit qu'elle est garante des choses.
En fait, c'est devenu une marque qui est utilisée.
Ça. C'est des labels.
Comme
Jacques Martin, tout ça, c'est vrai.
Nous ne parlerons pas de Tintin.
Donc voilà mon avis et je vais conclure là-dessus. Lisez, relisez à l'envie les aventures d'Astérix le Gaulois, les vrais, c'est-à-dire jusqu'aux Belges, et consultez les suivants en plus parce que faut les connaître, mais ça manque de sel, moi, je trouve.
Merci Françoise Romain sur les reprises de trois mots. Ça vous inspire, ça vous énerve, ça.
Ça dépend des.
Ça dépend des reprises.
Il y a deux cas de figure. Enfin, si on reprend, parce qu'un personnage peut tout à fait être attirant, stimulant. Moi, je comprends tout à fait qu'on ait envie de faire un Lucky Luke, un Astérix, ou, un Spirou par exemple, parce que c'est un bon exemple. Spirou. Justement, mais Spirou, c'est un bon exemple justement d'un personnage qui a pu être fait par plein de dessinateurs différents. Mais à mon avis, il faut juste simplement que chaque auteur le fasse dans son style, se l'approprie. D'après ce que j'ai compris, Corto Maltese, je l'ai pas lu.
C'est Vivia Vives qui l'a carrément transposé d'époque, etc.
Il l'a fait à sa sauce, du coup.
Il l'a fait vraiment à sa sauce. Autrement, il y a Canales et... je suis en train de chercher...
Quand vous reprenez un personnage et que vous le faites à votre sauce, moi, ça me paraît intéressant.
Ah, ça me paraît moins gênant,
Ce qui me gêne plus, c'est quand c'est du à la manière de... Là, c'est vrai que c'est pas très intéressant.
Bon, il faudrait qu'on fasse une émission peut-être un peu plus complète par rapport à ça, parce que le temps nous manque, on a encore des chroniques à faire, s'il vous plaît. Merci.
Alors... Ah, mais d'ailleurs, c'est ton tour, Olivier, vas-y.
Mais c'est ton tour.
C'est pour ça que ça passe.
Vitesse olympique.
Oui, parce que le temps nous manque. Et puis voilà, donc... moi, je vais vous amener pour ma chronique. Je vais vous proposer d'aller sur le stade Suzanne Lenglène à Roland-Garros pour une rencontre avec une joueuse de tennis qui a un sérieux coup droit et un franc-parler.
Moi, j'aime le tennis. Passing shot, revers croisé, un match serré.
Alors oui, Suzanne Lenglène, ça vous dit vaguement quelque chose, je pense. Et si je vous dis Serena Williams, Monica Seles, Amélie Mauresmo, Steffi Graf, vous voyez à peu près de qui je parle, de grandes championnes de tennis. Mais si je vous dis Marguerite Brookdis, eh ben là, vous voyez un peu moins, sans doute.
Ah ça oui,
vous
ça parle
un peu
clair,
moins. Ouais. Et pourtant, figurez-vous que cette brave Marguerite n'est ni plus ni moins que la première Française à avoir gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'était en 1912 à Stockholm et elle n'avait que 19 ans. Et pour gagner sa médaille, Marguerite a dû batailler, sur le court et en dehors du court. Rappelons que les Jeux Olympiques modernes, tels que nous les connaissons, aujourd'hui sont la volonté de Pierre de Coubertin, dont on a retenu la célèbre expression « Le plus important aux Jeux Olympiques, c'est pas de gagner, mais de participer ». Quel bel esprit que voilà. Oui, mais ce que l'on a un peu oublié, c'est que le même Pierre avait aussi une vision bien particulière du sport, et surtout des épreuves féminines. Et d'ailleurs, nous avons retrouvé un enregistrement de l'époque dans lequel il s'exprime sur ce sujet.
Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Peut-on consentir aux femmes l'accès de toutes les épreuves olympiques ?
Bien sûr.
Non. Plus vite, plus haut, plus fort, c'est la raison d'être de l'olympisme. Quelles que soient les ambitions athlétiques féminines, elles ne peuvent se hausser à la prétention de l'emporter sur les hommes. Une petite Olympiade femelle à côté de la grande Olympiade mâle, où serait l'intérêt ?
Jetez-le par la fenêtre.
Au moins ça a le mérite d'être clair. Mais heureusement pour nous et pour le sport féminin, il y a des personnages comme Marguerite Brookdis qui ont eu l'audace, l'aplomb et le courage de faire évoluer les mentalités, même les plus enracinées. Alors cette biographie, réalisée par Paul Carcenac à l'écriture et Fabien Rontex au dessin, et éditée par Desron dans l'eau, est une excellente idée. Et c'est pour ce genre d'ouvrage, moi d'ailleurs, semi-documentaire, semi-romancé, que j'aime beaucoup la bande dessinée. Alors racontée à la première personne par Marguerite elle-même, l'histoire nous plonge dans le milieu du sport et de la presse des débuts du XXe siècle. Le dessin de Fabien Rontex nous charme en transcrivant cette ambiance assez bourgeoise et feutrée du sport de cette époque. On s'amuse presque de voir les joueuses de tennis de cette époque endimanchées, des pieds à la tête, avec des robes longues, des grands chapeaux, faire des coups droits et des revers. Et Paul Carcerac, avec sa rigueur journalistique, nous dresse le portrait d'une Marguerite avec un talent inné pour le tennis, un sens accru de l'effort et un caractère bien trempé, mais qui ne sacrifie rien du tout à sa féminité. Voilà, un album qui vous permettra de faire connaissance puis d'avoir de la reconnaissance pour cette sportive un peu perdue de notre mémoire collective. Voilà, ça s'appelle Marguerite Brookdis, l'histoire de la première championne olympique française, de Paul Carcenac et Fabien Rontex, et c'est aux éditions des Ronds dans l'eau. Voilà.
Elles étaient courageuses, les femmes de cette
époque-là. Très, très courageuses.
Parce que franchement, il fallait lutter contre un sexisme effroyable.
Voilà, exactement.
Sexisme, bon sens, faut pas non plus...
Toi, tu vas tomber.
Voilà, et ben l'émission se termine.
On vous souhaite de bonnes vacances.
Avec la musique de la flamme olympique, ça je crois.
Elle fait de la musique, la flamme.
Ouais,
c'est ça.
Fait de la musique, la flamme.
On peut que vous inciter à aller sur les festivals, hein, comme tous les ans, et à rencontrer les auteurs, leur parler plutôt que de demander des dédicaces. Faites-vous plaisir, faites-leur plaisir. Excellentes vacances à tout le monde.
Et à la rentrée.
Et à la rentrée.
Et non.
Peut-être.